voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Virginie Bloch-Lenné rencontre Raoul Peck. Ce soir, ministre de Haïti.
Bonsoir Raoul Peck.
Bonsoir.
Vous avez plusieurs fois reçu des honneurs, vous avez reçu des prix pour vos films, vous avez fait partie de jurys, de festivals, Festival de Cannes, Sundance, Festival de Toronto. Et vous avez été ministre de la Culture en Haïti.
Oui, nobody's perfect.
Entre 1995 et 1997. Ça s'est terminé par une démission collective, en 1997, donc 18 mois de mandat. Le président était René Préval à ce moment-là. Pouvez-vous, Raoul Peck, rappeler la situation politique d'Haïti au moment où vous acceptez la proposition qui vous est faite?
Oui, alors ça commence en fin mi-94 avec le retour de l'ancien président Jean-Baptiste Aristide, qui a été victime d'un coup d'État, donc qui s'est réfugié aux États-Unis, à Washington, pendant 3 ans.
6 mois après avoir été...
Absolument, 6 mois après sa prise de fonction. Et donc, il y a eu un énorme mouvement de solidarité internationale, et petit à petit, on a pu pousser les Américains à aider au rétablissement du pouvoir démocratique. Ça a mis du temps, mais finalement, il a pu revenir. Il y a eu un débarquement de Marines américains, ce qui n'était pas totalement de mon goût, mais c'était ce qu'ils avaient pu négocier. Donc, Aristide finit les 2 ans qui lui restaient de son mandat. Il y a eu de nouvelles élections, et René Préval, qui était une sorte de tour de passe-passe de genre Poutine-Medvedev, puisque la constitution haïtienne ne permet pas 2 mandats de suite.
Donc c'était un homme de paille.
Donc, pas totalement, c'était l'un des hommes les plus proches d'Aristide à l'époque. Donc, d'ailleurs, dans la rue, on disait, voilà, ce sont des jumeaux. Donc Préval remplace Aristide, et le mouvement démocratique accepte Préval. Et à ce moment-là, on est encore dans le cadre d'une grande coalition de gauche, puisque le parti pour lequel on m'appelle, c'est un parti nouveau, qui a été créé après la dictature, par des anciens socialistes, des anciens communistes. Une partie d'entre eux viennent de l'exil, des prêtres catholiques de gauche, etc., qui étaient à la tête du mouvement de ce qu'on appelle les petites églises, c'est-à-dire des églises de base, qui ont beaucoup milité contre la dictature. Donc cet énorme mouvement démocratique continue à garder ce pouvoir. Donc le premier gouvernement de Préval après son élection, c'est ce gouvernement auquel je vais prendre part. Donc c'est un gouvernement de coalition, de plusieurs partis qui vont du centre-gauche à l'extrême-gauche. Et nous commençons un travail sous l'accord qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel pendant au moins 3-4 ans pour nous permettre de faire un travail sérieux et de ne pas avoir à surveiller les prochaines élections ou le prochain remaniement. Donc on a commencé ce travail, mais qui s'est avéré très difficile. Mais les premiers 6-8 mois ont été extraordinaires, parce qu'il y avait une vraie solidarité. Et petit à petit, on s'est aperçu que Aristide, qui pensait continuer à exercer son pouvoir de l'extérieur, s'énervait un peu parce qu'il s'est rendu compte qu'on ne tenait plus compte de lui. Donc là, une certaine guerre s'est déclenchée, sans dire son nom. Il a commencé à mettre ses partisans dans la rue.
Et que voulait Aristide que vous ne vouliez pas?
Les choix qu'il avait fait déjà à son premier gouvernement, où il avait choisi que des gens qui lui étaient proches, au lieu justement de choisir une coalition, puisque il a été désigné candidat par toute cette coalition. Normalement, c'était un représentant d'un parti social-démocrate qui devait être candidat. Mais comme on était persuadé que les Américains n'allaient pas accepter une élection qui ne voyait pas leur candidat, qui était un autre type de droite, on s'est dit, il faut assurer cette élection. C'est-à-dire, on peut pas la gagner à 51%, il faut la gagner à 60%, voire plus. Donc, Aristide était le candidat idéal. Donc, il a été choisi 2 mois avant les élections. Donc, sa campagne était très courte. Mais il a bénéficié de l'appui de tout le monde. Or, lorsqu'il a été élu, il a fait le choix d'écarter tout le monde et de garder que ses proches qui lui obéissaient au droit et à l'œil. Donc ça, c'est un signal assez clair. Mais on était prêt à continuer à travailler. Mais on avait été échaudé. Et 6 mois après, il y a le coup d'État. Donc le coup d'État change tout, puisque là, il s'agit plus d'Aristide ou un autre, il s'agit de rétablir la démocratie. C'est la même manière que avant l'élection de George Bush, il a été très mal élu, mais le 11 septembre a tout changé. Et l'appui international qu'on a eu par rapport à l'image de ce jeune curé de gauche qui a un discours très révolutionnaire, etc., s'est propagé. Et on a eu beaucoup d'appui par rapport à ça. Mais de l'intérieur, on savait que ce personnage n'était pas totalement celui qu'on pensait. D'ailleurs, j'ai fait pendant cette période un film documentaire sur lui, pendant la période d'exil à Washington, où j'ai eu à lui poser un certain nombre de questions, justement, qui confirmaient ce que je pensais. Donc, quand il revient au pouvoir, et quand moi aussi je reviens en Haïti, c'est clair qu'on n'est plus dans le même camp.
Il se doutait de ce que vous pensiez ?
Non, je pense qu'il était tellement imbu de sa personne, je pense pas. Non, on est le premier clash qu'on a eu, c'est qu'après ma désignation comme ministre, il a fait 3 heures d'interview à la télévision et à la radio nationale, qui sont sous ma tutelle, et je l'apprends le lendemain matin parce que des journalistes m'appellent pour me demander de réagir par rapport à cette interview, qui est une interview qui n'a pas de sens. Il n'est plus président. On vient à peine d'établir un nouveau gouvernement. Et c'était sa manière de montrer que ces médias lui appartenaient. Donc il a convoqué le directeur général de la radio nationale et le directeur général de la radio, de la télévision nationale. Et il a eu 3 heures d'antenne.
En direct ?
Oui. Donc moi, du coup, j'ai convoqué ces 2 directeurs généraux et je leur ai envoyé une lettre de blâme. Et je sais que le jour même, mes courriers sont arrivés à la table d'Aristide. Donc, à ce moment-là, il est clair que je n'étais plus dans son camp, même si, hypocritement, il me souriait, on s'est revus à nouveau, et j'ai eu l'occasion de lui dire aussi ce que je pensais, de manière très polie, mais c'était clair qu'on n'était pas dans le même camp. Donc, lui, il se rend compte que la dynamique du pouvoir lui échappe, puisque le pouvoir, c'est ainsi. Le pouvoir, c'est celui qui signe des chèques, qui nomme des gens, et qui est au bureau tous les jours. Vous pouvez pas, de votre villa, appeler le président 3 ou 4 fois par jour et croire que vous avez le pouvoir. Et même Préval, il nous arrivait d'être en réunion en petit comité, et de temps en temps, il laissait poindre son irritation, il dit « ce type m'appelle tout le temps ». Donc c'était clair que quelque chose se passait et qu'il était en train de perdre le pouvoir. Donc, et là, il a changé de stratégie et il a commencé à mettre des gens dans la rue. Et ça a été très loin, puisque à un moment, il y a eu des gangs armés.
Mais pourquoi y avait-il encore des gens pour être de son côté ?
Oui, mais parce que c'est... Attendez, c'est comme si vous me dites pourquoi il y a 30% de Français qui votent Le Pen. Vous comprenez, et Préval, c'est quelqu'un de son profil politique qui est quelqu'un quelque part de très fidèle et qui a une sorte de nihiliste gauchiste en même temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais étudiant, qui n'a jamais appartenu à aucun parti parce qu'il ne croit pas dans les partis politiques. Donc, quand les choses commencent à prendre un tour violent, son choix, c'est un choix un peu populiste de dire « je suis du côté du peuple ». Parce que Aristide a encore, tient encore ce discours.
Soutien, oui.
Le peuple, c'est moi. Oui. Et donc un discours populiste qui est très difficile, puisqu'il a un langage que, en effet, la population comprend. Il tient un discours totalement polémiste. Pour vous donner un exemple direct, il peut faire un discours en critiquant la grande bourgeoisie industrielle haïtienne et mulâtre, puisqu'il y a aussi un problème de race, de couleur en Haïti, et le lendemain de recevoir à déjeuner la petite caste de 8 personnes les plus fortunées du pays. Donc il tenait ce double discours. Donc quand on connaissait les détails, on ne se laissait pas prendre à ce discours. Mais c'est un discours qui fonctionnait très bien par rapport à, surtout à la population pauvre, qui vit en effet dans des conditions inadmissibles. Donc c'était une bataille très dure à gagner. Et quand il y a eu des élections, et les élections se sont avérées catastrophiques, il y a eu toutes sortes de tricheries, donc il y a eu une crise politique. Donc mon ministère est aussi en charge du journal officiel, et une fois que les résultats des élections sont publiés dans le journal officiel, elles sont valables. Donc, moi, de mon côté, j'ai convoqué le directeur du journal officiel et lui dire, en aucun cas, vous ne pouvez publier le résultat des élections. Nous avons un conseil des ministres dans 2 jours, et ça va être l'objet de discussions. Et selon ce qu'on décidera, on verra comment approcher ça. Et en fait, pendant les 2 jours qui ont suivi, Préval et Aristide l'ont bombardé, l'ont menacé, et il a publié. Donc, voilà, et c'était le dernier incident pour lequel, moi, je ne pense pas que j'aurais démissionné. Au contraire, on aurait engagé le combat de manière plus visible. Mais le Premier ministre, lui, a décidé de partir. Et dès qu'il décide de partir, nous, on est ministre du Premier ministre, on ne peut pas rester. Donc on a dû démissionner collectivement.
Vous avez continué à aller en Haïti après la démission et à,
Ah oui, bien sûr. Mon combat est là-bas, il continue jusqu'à aujourd'hui, sous d'autres formes. Mais après notre démission, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui relate de toute cette expérience. Et ça ne se faisait pas en Haïti. De parler d'une expérience politique en citant des noms, en citant des faits. Donc c'est un livre, à l'époque, on m'a déconseillé de l'écrire. Y compris... jusqu'au bout de la patience.
Jusqu'au bout de la patience.
Et c'est un livre très personnel, très politique, et que... J'ai décidé d'écrire parce que j'estimais que, comme on n'était pas des politiciens, on était des militants à qui on a demandé de remplir une tâche. Ce qu'on a fait, donc pour moi, c'était normal de faire un rendu. De dire, voilà ce qu'on a fait, et voilà pourquoi telle ou telle chose s'est passée, etc. Pour l'histoire, déjà. Et... Donc on m'a déconseillé, y compris ma propre famille, mon père, qui m'a dit « Écoute, je ne vais pas te dire de ne pas le faire, mais si tu l'écris, tu pars tout de suite. Tu quittes le pays. » J'ai dit « Non, je peux pas. Si j'écris un tel livre, c'est justement, je dois être là pour en subir les conséquences et répondre à ce que je dis. » Donc au final, oui, on l'a publié, et voilà, ça a été un best-seller immédiat.
Et vous n'avez pas eu de problème?
Non, je pense que j'avais une trop grande notoriété pour que finalement il me touche. Ça aurait d'abord confirmé un certain nombre de choses que je dis dans le livre, puisque j'ai très clairement dénoncé un certain nombre de comportements et d'actions qu'a fait Aristide. Et aussi de la complicité de Préval. Mais Préval est un cynique, donc il a rigolé en lisant le livre. On m'a rapporté que, en Conseil des ministres, il a demandé « Alors, qui parmi vous ont lu le livre de Raoul ?» Et il y a eu un grand silence, parce que personne n'a osé en parler. Mais oui, il y a eu comme je n'ai pas tout dit, c'est-à-dire j'aurais pu détruire d'autres personnes. Mmh. Et il y a des noms que j'ai pas cités. J'ai pas donné les noms. Donc, quelque part, ça m'a protégé aussi. Parce que ils se sont dit, si jamais ils sortent la tête de l'eau, je risque de sortir autre chose. Donc, en fait, ça a neutralisé les attaques possibles. Et, en tout cas, j'ai pas eu de réponse, ni publique, ni privée, par rapport au livre. La seule évidence, c'est que le livre s'est vendu très vite et qu'il a été épuisé au bout de quelques mois.
Lorsque vous avez réalisé, Raoul Peck, Assistance mortelle ou Meurtre à Paco, comment a réagi la population en Haïti? Est-ce qu'il y a des gens qui vous en veulent d'avoir été contre Aristide?
C'est deux sujets différents. Assistance mortelle, c'est après le tremblement de terre.
Oui.
Donc ça concerne plutôt
l'ingérence de la communauté internationale
et son rôle après le tremblement de terre. D'abord une chose, après notre démission, notre réputation à tous a augmenté de 100 000.
Quoi. À c'était votre popularité.
Absolument, oui. Parce que ça a été... personne n'abandonne un pouvoir en Haïti. Ça, c'est jamais vu. Soit on vous tue, soit vous prenez la fuite. Mais de renoncer à un pouvoir, parce qu'on avait un pouvoir, on avait la majorité au Parlement.
C'était du jamais vu.
Donc, c'était plutôt, on était dans une place assez forte. Donc, on a renoncé à ce pouvoir. À tort, je pense, mais voilà, on n'avait pas le choix. Et donc, de ce point de vue, tout allait bien. Et j'ai continué mon travail critique après ça. J'ai régulièrement pris la parole dans les médias. J'ai écrit des papiers quand il fallait pousser un coup de gueule, etc. Donc je n'ai jamais été absent totalement. Après le tremblement de terre, quand
2010,
je décide en 2010, je rentre en Haïti. Je pars d'un avion militaire français pour arriver en Haïti très très tôt. Mais c'est pour aider. Ayant justement été fonctionnaire de l'État, l'idée c'était que on a besoin de moi et je dois être sur place. Et je me suis tout de suite mis au service du président, du premier ministre. J'ai été les voir tout de suite, alors qu'on était à froid bien sûr, mais dans des circonstances pareilles, voilà, c'est pas, on fait pas de politique. Mais très rapidement, je me rends compte que l'État est débordé et n'a pas la capacité de répondre, alors que sur le terrain de l'aéroport, je croise tous les médias, CNN, ils ont tous des grandes antennes, ils ont des télés, ils ont tous les moyens de communication possibles, et j'arrive à la maison où se trouve le gouvernement, et ils ont à peine des tables, sans papier, sans téléphone cellulaire, c'est moi qui amène deux téléphones satellites pour des collègues. Et donc, je me rends compte que, voilà, tout est fait pour ne pas donner les clés à l'État haïtien.
Les clés de la reconstruction.
Et même de la réponse. C'est-à-dire, il y a même une concurrence entre les États qui viennent aider. Il y a eu des coups de gueule entre Kouchner et les Américains. Kouchner, de toute sa fierté de spécialiste, voulait prendre la direction de cette réponse humanitaire, etc. Bref, et nous, les Haïtiens, nous assistons comme ça de loin à une avalanche sur nous. C'est-à-dire, il y a une deuxième catastrophe qui arrive, qui est la catastrophe humanitaire. Et à ce moment-là, je me rends compte que il ne me reste plus qu'une chose, c'est d'observer et de documenter tout ce qui allait se passer. Donc je décide, avec Arte, qui accepte le projet tout de suite, d'observer pendant 2 ans tout ce qui allait se passer, puisque l'avantage que j'ai, c'est que je peux filmer de l'intérieur. Puisque Préval m'autorise, bien sûr, à rentrer et suivre les discussions, le Premier ministre fait de même, et donc à ce moment-là, l'ONU ne peut pas m'empêcher, les ONG ne peuvent pas m'empêcher de suivre leur travail, et donc j'ai un point de perspective rare pour suivre cette deuxième catastrophe. Et donc le résultat de ce film est pour moi quelque chose qui va rester, parce qu'il n'y a pas de précédent. Et c'est à une manière aussi, une bonne fois pour toutes, de dire que l'aide humanitaire et l'aide au développement telle qu'elle est pratiquée encore aujourd'hui est inadmissible, inacceptable. Et il faut qu'elle s'arrête.
Ça n'a pas changé depuis 2010.
D'abord, les 6 milliards promis ne sont jamais arrivés. Il y a eu un grand nombre de rapports, y compris de la Cour des comptes, par rapport à l'aide française, qui est bien sûr dans le discours habituel de la Cour des comptes, on peut croire que c'est un résultat plus ou moins correct, mais il est totalement inacceptable quand on voit comment les chiffres ont été manipulés. Pour donner un exemple parmi d'autres, où des aides qui avaient déjà été données à Haïti ont été comptabilisées dans l'aide au développement après le tremblement de terre. Dans lequel on calcule, pour donner un autre exemple, 100 camions, comment dire, le décompte comptable de ces 100 camions sont utilisés comme si c'était de l'argent nouveau pour l'aide à Haïti.
Vous avez une...
Bref, les Américains, c'est pareil, ils promettent 2,5 milliards, eh ben 800 millions vont à l'armée américaine pour le débarquement qu'ils ont fait avec 20 000 Marines, que nous, on n'avait pas demandé, puisqu'on n'est pas en guerre.
Est-ce que vous avez eu une réponse, soit des États-Unis, soit de la France, enfin une réponse, des commentaires à assistance mortelle, OPEC?
Ah oui, d'abord, tout le monde diplomatique s'est couché. Ils ont fait silence, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à ça. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a diffusé le film gratuitement à toutes les chaînes de télévision haïtiennes, un même après-midi de dimanche. Et il y a eu une discussion publique. Donc ça veut dire que dans les moindres coins du pays, tout le monde connaissait le dossier. Et 2 mois après, on a fait la même chose avec la version créole du film. Donc ça a changé totalement la discussion sur le terrain. Le terme ONG est devenu une insulte en Haïti. Donc les gens savent très bien. D'ailleurs, le film ne fait que mettre des images et des mots devant une situation qu'ils connaissent dans tous les coins du pays. Et ce qui est important de savoir, que ce n'est pas qu'un phénomène par rapport à Haïti, mais on retrouve ce genre de phénomène après Katrina, dans les inondations dans le sud de l'Allemagne. Tous commencent à parler. Ça a été, le film est utilisé dans beaucoup de grandes
institutions. Ça a été un coup d'envoi.
Ça a déclenché une vraie discussion. Même dans des institutions qui publiquement n'osent pas dire que c'est un échec. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, puisqu'il y a les gens qui donnent de l'argent, il y a trop de responsabilités, ce sont des grosses machines qui vivent de l'argent qu'ils reçoivent. Donc c'est des gens qui ont des postes, etc. Donc on ne peut pas casser la machine comme ça. Mais je sais qu'il y a eu un impact. Et je sais que dans certaines d'entre elles, il y a des discussions importantes qui ont eu lieu. Même la Banque mondiale a utilisé le film pour ses formations. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus cacher. Et d'autant que les populations, elles aussi, sont au courant. Ce qui est important à savoir, on sait par exemple que de plus en plus de populations vivent dans les villes, en Europe également. Et avec le changement climatique, nous allons de plus en plus avoir des catastrophes. Or, l'approche de ces catastrophes sont un peu pareilles, c'est que tout le monde débarque dans ces lieux, l'aide des volontaires, etc. Et en général, on ne tient pas compte des gens locaux, des représentants élus, etc. Et on passe au-dessus de leur volonté. Et c'est là que les erreurs commencent. Puisque les gens sont déjà traumatisés, ils viennent de subir une première catastrophe. Et quand vous débarquez comme ça, avec vos belles bottes, vos caisses d'eau, de vitamines, etc., et vous prenez le pouvoir, c'est une question de pouvoir aussi. Mmh. Et des organisations en Allemagne, dans des discussions, ont dû avouer que, oui, ce qu'ils ont fait en Haïti, ils l'ont fait en Allemagne également. Ils l'ont fait à Katrina, ils l'ont fait à Sandy.
Mais l'eau, elle est distribuée, elle est...
Oui, mais oui. L'eau c'est juste un exemple,
oui.
Mais l'eau est distribuée.
Oui.
Quand vous transportez des avions remplis d'eau vers Haïti, alors que l'eau est l'un des commerces qui fonctionne le mieux en Haïti, vous cassez l'économie de cette industrie en Haïti. C'est un tremblement de terre, c'est pas une guerre. Tout est là. Donc, faites circuler de l'argent. Faites que les gens puissent acheter de l'eau. Parce que l'eau que vous nous envoyez, bon, bien sûr, les premiers 2 jours, 3 jours, oui, ça aide.
Mais après, ça, étouffe.
C'est une catastrophe.
La production.
Et ce qui est arrivé en Haïti, d'abord, sans compter la pollution de ces milliers de bouteilles de plastique qui arrivent, la faillite de beaucoup de compagnies locales d'eau, puisque la population a accès gratuitement à de l'eau, donc on n'achète plus l'eau. Ensuite, cette eau, elle est payée. Elle est décomptée dans l'aide qu'on donne à Haïti. C'est pas une eau gratuite. On la distribue gratuitement. Mais elle est achetée. Et qui sont derrière ça? C'est des grosses compagnies qui sont là à chaque catastrophe, qui appellent leurs sénateurs, leurs députés pour dire, voilà, j'ai une cargaison pour Haïti, est-ce que tu peux faire passer ça? Et il reçoit un chèque. C'est pas gratuit. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une partie qui est donnée, etc. C'est pas que du commerce, mais c'est toute une industrie qui fonctionne comme ça. C'est des gros contrats. Vous verrez beaucoup de jets privés qui atterrissent. Parce que eux, ils arrivent, ils disent, monsieur le président, le secteur débris, on prend ça en charge. On peut vous mettre à disposition 60 millions de dollars, on vous amène une centaine de camions, etc. On fera les contrats plus tard, etc. Parce que à la clé, il y a des contrats sur plusieurs milliards qu'ils espèrent qu'ils vont pouvoir avoir. Donc c'est tout ce jeu-là qui se met en place. C'est pareil après la guerre d'Irak, c'est pareil après Katrina. Toutes ces grandes catastrophes créent tout un secteur économique et qui sont très liés au pouvoir.
Merci Raoul Peck.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Raoul Peck. À voix nue, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Andreas Jaffré, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.